Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité, au plateau qui ont nourri votre mère, parfois intellectuellement. Vous en avez préféré d'autres plus terrestres. Vous parcourez la France en quête de nouveautés, des fonds de terroir, mais jamais de fonds de tiroir. Ils font la recette de votre succès. Bonjour Julien Drieux.
Bonjour Jacques, je vous retrouve bien là, dans cette jolie formulation.
Alors, on vous voit tous les samedis à la télévision dans les carnets de Julie, mais vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer à travers des dates clés. C'est le principe de l'émission. Alors la première que j'ai trouvée, ça m'étonnerait que ça vous laisse un souvenir, c'est le 19 mars 1974. C'est votre première photo dans la presse, dans Télé 7 jours. Avec, vous êtes un bébé tout petit.
Je ne le savais pas, voilà. Effectivement. Je ne connaissais pas cette date. Oui, c'est possible, je suis née le 27 février, donc je n'ai pas attendu longtemps avant de me produire dans la presse.
Exactement. Et vous êtes avec votre maman, et vous avez quelques jours, et on parle de votre maman, Nicole Courcel, qui vient de faire les Boussardelles. Oui. Et vous êtes toute petite, mais toute menue.
Toute menue, je ne sais pas, mais avec des cheveux noirs, j'ai. Et des yeux noirs aussi, comme quoi. On évolue.
Alors, votre maman, Nicole Andrieux, est devenue Nicole Courcel à la suite d'un film dont on va écouter la bande originale.
Et c'est fait, je te dis. Je vais jouer la comédie dans un théâtre, sur une vraie scène et devant un vrai public qui paiera sa place.
C'est la voix de Nicole Courcel, votre maman, dans Rendez-vous de juillet de Jacques Becker.
Elle avait 17 ans, je crois.
Ouais. Et ce film a marqué toute une génération.
Et effectivement, comme vous le disiez, son personnage s'appelait Christine Courcel. Ouais. Et Jacques Becker lui a demandé de changer son nom, Andrieux. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais il trouvait que ça sonnait pas très bien. Je m'inscris en faux. Mais enfin, il lui a fallu changer son nom, d'autant plus qu'elle n'était pas connue. Donc, elle a dû se plier à ses désirs. Et elle a choisi, comme ça, un peu à la va-vite, ce nom de Courcel.
D'ailleurs, elle a habité boulevard de Courcel.
Elle a habité rue de Courcel, oui. Mais qui ne s'écrit pas de la même façon, mais absolument. Enfin, on a habité d'ailleurs, moi, je faisais partie de sa vie déjà.
Oui, et d'ailleurs, j'ai été un jour là-bas pour l'interviewer, passer une heure avec elle. J'ai rarement entendu quelqu'un qui parlait autant, mais avec autant de passion.
Je vais essayer d'être un petit peu moins
bavarde. Non, mais c'est étonnant. Non, c'est très bien. Au contraire, c'était une bonne cliente. Mais elle avait une envie de raconter qui était exceptionnelle.
Oui, sûrement.
Alors, ce film, Rendez-vous de juillet, ça a marqué une génération. La nouvelle vague s'en est imprégnée. Donc, à l'époque, j'ai parlé des Boussardelles, une famille. Mais votre famille était beaucoup plus réduite puisque vous avez grandi avec votre mère, Julie Andrieux.
Oui. Mes parents se sont séparés avant même ma naissance. Et donc, je n'ai rencontré mon père que tardivement, à l'âge de 8 temps, je crois. Oui. Et maman a estimé que c'était lui qui était parti, il faut bien dire les choses, donc qu'elle allait m'élever seule et que quand je serais en âge de comprendre ces parcours de vie, eh bien je le rencontrerais. Mais il est resté toujours en filigrane, il m'envoyait un petit cadeau pour mon anniversaire, pour Noël. J'avais une image assez, et je le remercie d'ailleurs, assez positive de mon père. Il aurait été facile pour elle de tomber dans l'opprobre et de commencer à me dresser un portrait un peu sombre de ce papa qui était parti. Mais voilà, rien n'était simple, ni d'un côté ni de l'autre, et donc je n'en veux à personne. En tout cas, je remercie ma maman d'avoir préservé son image, puisqu'aujourd'hui je le vois, je le fréquente, on est proche, et heureusement qu'il est là.
C'est l'essentiel. Ouais. Alors, à l'époque, au départ, vous habitez Place du Panthéon, où Laurent Fabius a vécu.
Maman lui a vendu l'appartement, maman a vendu cet appartement, qui était pour elle trop chargé de souvenirs, je crois, et elle a changé de quartier, et effectivement Laurent Fabius me l'a dit, d'ailleurs je l'ai croisé il y a quelques années, il m'a dit « Ah mais vous savez que j'habite l'appartement où vous êtes quasiment né ». Et voilà, c'est un petit clin d'œil.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on se souvient de Laurent Fabius, Premier ministre, allant chercher des croissants un samedi matin en sortant de cet appartement.
Oui, c'est vrai.
Ça avait marqué la presse. Alors, vous avez aussi habité chez Jean-Pierre Coff, curieusement.
Je crois, je ne m'en souviens pas très précisément, puisque j'avais un an, mais maman était très proche de Jean-Pierre. C'était vraiment un de ses très bons amis. Et justement, entre deux appartements, quand elle a eu vendu cet appartement du Panthéon, on a habité pendant un an chez Jean-Pierre à la campagne. Peut-être que ma vocation est née là.
Peut-être. Parce que alors, à l'époque, il avait un restaurant qui s'appelait La Ciboulette.
Oui, très connu. Oui.
Il avait aussi animé les soirées de l'Alcazar de Jean-Marie Rivière. Mmh. Et puis, il avait installé La Ciboulette en Guadeloupe. Mmh. Il y a un souvenir étonnant, c'est qu'un jour, il y a une réunion informelle de chefs d'État et Jimmy Carter reste pour dîner avec sa femme et sa fille. Ah. Et il demande un hamburger. Et Coff lui a jeté à la gueule en disant « Je ne sers que de la cuisine française ». C'était déjà le Coff.
C'était déjà le Coff virulent et défenseur de la bonne bouffe. Cela dit, aujourd'hui, sûr, on découvre des enseignes qui font des bons hamburgers à la française. Donc, c'est amusant de voir que là aussi, les choses évoluent.
Voilà. Alors, la cuisine, en revanche, c'était pas du tout la passion de votre mère.
L'affaire de maman, non. Bien qu'elle ait ouvert un restaurant sur le tard, quand elle a arrêté le métier de comédienne, elle voulait ouvrir un restaurant. Mais enfin, je pense que c'était une façon pour elle de monter sur scène un peu, hein, parce qu'elle était plus dans la salle que dans les cuisines. Heureusement, d'ailleurs, pour les clients. Non, elle cuisinait pas du tout et elle trouvait que c'était assez secondaire dans la vie, d'ailleurs. Elle aimait bien, en revanche, réunir ses copains autour d'un ossobuco. Je me souviens qu'elle me parlait d'un ossobuco. Je l'ai jamais vu le faire, mais enfin, il paraît qu'il a existé. Mais non, c'est vrai. Et moi, je pense que j'ai dessiné ma trajectoire professionnelle peut-être un peu en réaction, alors, pour le coup.
Oui, parce qu'enfant, les dîners, c'était des surgelés devant la télé.
Ah oui, avec le recul. Sur le moment, je trouvais ça très bon, hein, mais j'avais pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais alors, avec le recul, ça devait être sacrément dégueulasse. Oui, on a été pionniers dans l'art de maîtriser le surgelé, le micro-ondes, les nourritures industrielles et emballées. Enfin, j'ai tout fait, oui.
Oui, alors je me suis un peu...
Le truc, c'était une avancée, finalement. Oui, ça libérait la femme, ce qui pouvait l'être d'une certaine façon.
Et on a oublié, mais c'est en 1935 qu'un certain Clarence Bartzai, qui est un Américain, a trouvé le procédé de conservation qui a permis de créer les produits surgelés. Ah. Et ensuite, c'est arrivé en France beaucoup plus tard, dans les années 70.
Alors, il y a beaucoup de bons dans le surgelé. Parfois, les surgelés sont plus frais que le frais. Hein, oui. Le frais qui n'est plus très frais. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas réduire notre nourriture au surgelé. C'est un peu dommage.
Oui. Alors, ensuite, la cuisine, vous avez quand même découverte avec votre nounou. Je crois qu'elle faisait un curry.
Oui, voilà. J'avais une nounou mauricienne qui nous faisait un bon curry. Je crois que c'était les seuls plats à peu près cuisinés que je pouvais manger. Bon, cela dit, maman voulait que je mange des légumes. Donc, elle me faisait quand même les éternels haricots verts qui restent sur le coin de l'assiette. Parce que je suis comme mes enfants aujourd'hui, j'avais un peu de mal à manger des légumes. Donc finalement, le message, c'est qu'il ne faut pas désespérer quand on est parent.
Exactement, oui. Alors, quand vous alliez chez des copines, Julie Andrieux, c'était entrée plat dessert, ce qui vous surprenait.
Oui, ben, j'allais dans des familles qui étaient les plus courantes, des familles assez traditionnelles, donc avec un papa, une maman, des frères et sœurs, des horaires pour dîner, un dîner devant une table, parce que moi, c'était pas d'horaire, dîner devant la télé, très souvent sur une petite table roulante.
Devant Champs-Élysées.
C'était un peu bohème, devant Champs-Élysées. Absolument, ça c'était le samedi soir. Hein. Bon, on se couchait quand même, maman avait quand même instauré des règles, heureusement. Donc je me couchais tôt, je travaillais, je faisais mes devoirs. Bon, c'était pas non plus complètement fantasque. Mais c'est vrai que le repas n'était pas un rituel très rigide. Donc mes copines adoraient venir chez moi parce qu'on mangeait des bonbons, on mangeait un peu n'importe quoi, on mangeait un peu n'importe où. Et moi j'adorais aller chez les copines parce que je découvrais un monde étonnant.
Oui, et les déjeuners et dîners particuliers, moi j'en ai connu un, c'était les dîners à l'envers que faisait Eddie Barclay.
Ah,
on
oui.
commençait par le dessert, on finissait par l'entrée.
Ah, ça
il avait fait
clair.
Ça pour les 65 ans de Henri Salvador.
Ouais.
C'était étonnant.
Mais il y a eu, comme ça, tout au long de l'histoire de la gastronomie, des aventures étonnantes. Grimaud la Reynière, le premier au 19e, qui avait inventé un peu la critique gastronomique. Il y a eu Daniel Spoerry, quand on va vers l'art. Ça a toujours été une matière, finalement, puisque ça nous est tellement proche et tellement intime que c'est intéressant de retourner ce rituel du repas.
Moi, je me souviens de Spoerry, l'un de mes premiers reportages était au Grand Palais. Il avait exposé les restes d'un petit déjeuner.
Ah oui, c'était les reliefs, comme
les
on
reliefs,
disait autrefois.
Les reliefs. Alors, votre mère s'est tellement occupée de vous que finalement elle a refusé le rôle qu'a pris Chantal Nobel dans Château Vallon, Julie Andrieux.
Oui, c'est vrai. Et je me souviens d'ailleurs de Jean-Pierre Coff que j'ai pas mal fréquenté après, d'ailleurs, alors qu'ils étaient moins proches avec maman, qui me disait « Mais on en avait marre de toi !» ma mère, Nicole, n'avait que toi à la bouche, et Julie, et Julie, et Julie. Vous savez, quand une femme vit seule, qu'elle est déjà un peu âgée, puisqu'elle m'a eu à 42 ans, ce qui était à l'époque, en tout cas, très tard pour avoir un enfant, le premier enfant, c'est vrai qu'elle a tout concentré, elle a focalisé vraiment sa vie sur moi. Donc, je pense que pour les copains, c'était une femme qui était une osseuse, une sorteuse, drôle. Tout d'un coup, elle est devenue mère avant tout. Moi, je l'en remercie, mais peut-être qu'elle a perdu quelques copains et quelques rôles.
Oui, et on disait de Nicole Courcel qu'elle était une Don Juan, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas toujours facile à vivre quand on est son enfant, mais j'en suis très fière parce que finalement... Elle s'est comportée comme beaucoup d'hommes pouvaient se comporter. Elle ne se réprimait pas quand elle avait envie d'avoir une aventure. Elle l'avait. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans sa vie, elle est un peu entrée en religion. Et moi, j'ai très peu vu d'hommes à la maison. On a formé un couple, en quelque sorte.
Oui, et un couple avec quelquefois des soucis, notamment à 15 ans, la boulimie et l'anorexie.
Oui, une période de où je me cherchais un peu et où je suis rentrée dans un dérèglement alimentaire, probablement lié au fait que, justement, il n'y avait pas de de règles, pas de rites, qu'il n'y avait pas le culte du bien manger. Alors tout ça est assez rigolo sur le moment, et puis à un moment, on en paye un peu l'addition. Et puis surtout, cette obsession qu'ont beaucoup de jeunes filles de vouloir rester minces. Un médecin qui a 18 ans me dit « mais vous êtes beaucoup trop grosse », alors que j'étais un peu enrobée comme toutes les jeunes filles de 18 ans. « Il faut vous mettre au régime, des régimes très stricts ». Et on perd un peu le fil. Et je pense que je me suis reconstruite et j'ai retrouvé une forme de paix avec moi-même et avec mon assiette à travers mon métier, bien sûr.
Métier qui n'a pas été le premier que vous avez exercé. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 3 juillet 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Andrieux.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Julie Andrieux. Une date importante, 3 juillet 1991, c'est les résultats du bac.
Ah oui, c'est ça, je me disais, tiens, 91, qu'est-ce que ça peut bien être ? Oui.
Et vous avez le bac ?
J'ai le bac, enfin, on était quand même heureusement majoritaire à l'avoir. Oui. Un peu poussif, hein, quand même, le bac. Hein. J'étais pas scolaire du tout. J'ai toujours été très solitaire, très individuelle. J'aimais pas ce travail collectif, j'aimais pas aller à l'école. Je comprenais pas pourquoi l'autorité des profs était assise d'emblée, comme ça, sans préalable. J'avais du mal à me fondre dans le moule. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir profité, comme souvent d'ailleurs, de ces années où... Voilà, j'avais le savoir à portée de main, avec peut-être certains profs qui ne me plaisaient pas, mais d'autres certainement passionnants.
Et cette année-là, il y avait un sujet étonnant en philosophie, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était « En quoi les artistes nous aident-ils à être libres ?»
Non, je ne savais pas.
Voilà.
J'aimais bien la philo d'ailleurs, ouais, j'étais plutôt littéraire. Mais oui, alors ?
Et bien justement, parce que vous auriez pu être comédienne comme votre mère, Julie
Andrieux. Ah non, alors ça c'était le contraire de la liberté pour moi.
Voilà.
C'était alors une vraie servitude. Mais non, c'est drôle, hein. J'ai toujours développé une aversion même, on peut le dire, pour ce métier, bien que j'ai des amis comédiens, que j'admire, que j'aime. Mais je crois que je suis arrivée à une période de la vie de maman, je suis arrivée dans sa vie, où c'est toujours un peu difficile quand même, une fin de carrière de comédienne, surtout quand, comme elle, on se... donne à fond à sa maternité, donc forcément il y a derrière un frein à la carrière, et puis voilà, le physique qui vieillit, la solitude qui s'installe, et je crois que j'en ai vu très vite les travers de ce métier, et j'avais moi envie d'être au plus proche d'une forme de vérité, de sincérité plutôt, parce que je pense que le métier de comédien peut permettre d'atteindre une vérité, mais de sincérité, de jouer le minimum de jeu. Je voyais maman jouer beaucoup, même dans la vie, et ça me troublait un peu.
Oui, alors vous avez commencé par l'histoire de l'art, et vous avez bifurqué vers la photographie.
J'ai bifurqué vers la photographie, qui a été très vite une passion, comme on peut se trouver une passion pour le violon ou le piano. Et moi, c'était la photographie, mais c'était les dernières heures, on pourrait dire, de la photographie argentique. Et ce qui m'a plu, c'est d'être entièrement responsable de mon image, donc de faire la photo sur une pellicule. Donc ça, c'est-à-dire que la photo avait une autre valeur, parce que ça coûtait cher, la pellicule. Aujourd'hui, on peut en faire 1000 et en sélectionner une. De développer mes images, de les tirer. Et ça, ça a été, oui, ça a été une frénétique. J'y passais mes nuits dans ma petite chambre noire.
Oui, et en plus, vous avez fait un voyage de 3 mois en prenant un maximum de photos. Et un voyage jusqu'au Népal, au Sri Lanka, en Inde.
Oui, je suis partie seule, parce qu'une fois de plus, j'étais très solitaire. Je le suis toujours, mais enfin, j'ai appris à me socialiser un peu. Et je voulais faire ce voyage un peu initiatique. J'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac. Et voilà, la plupart de mes copains rêvaient de sortir, d'être en boîte. Moi, je rêvais d'aller au bout du monde, dans l'endroit qui me semblait être le plus loin de ma culture. Et je vivais dans le 16e, que vous connaissez bien, où ils ont installé le studio. Et franchement, Katmandou et Bénarès, c'était effectivement assez éloigné. Surtout qu'il n'y avait pas d'ordinateur, pas de portable, pas de mail. Et je suis partie seule pendant 3 mois. Et là aussi, ma mère a été sacrément courageuse. Maintenant que je suis maman, je m'en rends compte, de me laisser partir.
C'est dangereux quand même pour une jeune fille, là-bas, toute seule.
Oui, surtout que je n'étais pas très vraiment consciente du danger. Après, j'avais tellement envie de faire ce voyage. Et je partais pour chercher des images. Je ne partais pas. Voilà, j'avais un but en tête. Donc le matin, je me réveillais avec ce leitmotiv, ça m'a beaucoup aidée, ça aide à faire passer la solitude. Mais bon, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, mais il y a une façon de voyager à laquelle il faut s'accommoder, qu'il faut apprendre, c'est un vrai langage, comme une façon de manger.
Et 20 ans avant, il y a quelqu'un de très connu qui a fait le même voyage que vous.
Avec le temps,
Dalida, 71, se retrouve dans un ashram, elle a suivi Arnaud Desjardins. Elle veut vivre dans cet ashram et puis finalement, la personne qui s'occupe de cet ashram va écouter des cassettes et va dire « Rentrez en France, le public vous attend ».
Vous avez du talent.
Oui.
Alors moi, j'étais pas du tout partie pour aller dans un ashram. J'étais pas spécialement spirituelle. Je trouvais intéressant d'aller à la rencontre d'une culture différente de la mienne, dont la spiritualité faisait partie, puisque moi, je me considère athée. Mais c'est vrai que je suis pas partie, comme on dit, les doigts dans la prise, hein, pas du tout. En revanche, j'ai pris un choc dont j'avais besoin, je pense, vraiment pour aller de l'avant dans la vie. C'est un peu comme si vous arrivez non seulement sur la planète Mars, mais en plus à une époque qui vous semble révolue. Parce que là, quand vous arrivez à Bénarès, en tout cas il y a 30 ans, en pleine nuit, je suis descendue en bus, je venais en bus de Katmandou, vous repartez 1000 ans en arrière. C'est très impressionnant. Et pour une jeune fille qui avait un peu voyagé, mais qui n'avait pas vu grand-chose, je crois que c'est une des choses les plus fortes que j'ai vécues dans ma vie, et heureusement que je l'ai fait.
Alors, vous avez rapporté des images qu'on a vues ensuite dans Elle et Paris Match, ce qui n'était pas évident.
Alors non. Pour être honnête, j'ai effectivement fait des photos pour Elle et Paris Match, mais mes photos d'Inde, je les ai gardées pour moi, parce que ça n'intéressait personne. Et que c'est vrai, comme me l'a dit Henri Cartier-Bresson, que j'ai eu la chance de croiser, qui était évidemment mon idole quand on veut être photographe, il m'a dit, vous savez, des jolies photos d'enfants en Inde, c'est assez facile de les faire. Il avait tout à fait raison. Ce qui compte, c'est votre point de vue. C'est pas ce que vous photographiez, c'est le point de vue, c'est la face, c'est votre œil. Et donc, Elle et Paris Match, ça a été alimentaire, entre guillemets, mais c'était intéressant.
Et ensuite, il y a eu France Soir.
Alors oui, je suis rentrée au service photo de France Soir, et à l'époque, nous étions une douzaine, c'est vous dire si les choses ont changé.
C'était Rue Réaumur.
De photographes,
dans le
voilà, le Figaro et France Soir, et donc on m'envoyait sur de l'actu. Alors l'actu, ça pouvait être des défilés de mode, j'ai fait la couve, j'étais très fière avec l'inauguration des Champs-Élysées par Jacques Chirac. Mais voilà, c'était les chiens écrasés un peu, il faut le dire, mais c'était très formateur. Et surtout que j'étais en sidecar de BMW des années 40, donc pas commode comme moyen de locomotion, mais ça faisait partie du personnage, il fallait toujours faire ce que les autres ne faisaient pas.
Toujours. Et puis vous avez rencontré Jean-Marie Perrier, oui. Qui avait, je crois, 34 ans de plus que vous.
Oui.
À l'époque, c'était... Bon, aujourd'hui, c'est presque banal. Aujourd'hui,
c'est pas banal.
Oh, ça arrive souvent, beaucoup plus souvent, mais à l'époque, c'était pas évident de vivre ça.
Non, c'est vrai. Alors, je dis souvent, en rigolant, avec une pointe d'humour, mais avec beaucoup de sincérité, qu'il était finalement beaucoup plus jeune que moi. Et c'est vrai, il est resté dans la tête. Mais oui, écoutez, oui, c'est vrai. C'était... Mais ça nous a paru tellement évident, c'était parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, on était heureux, amoureux, on s'en foutait un peu des convenances. J'ai pas le souvenir tellement du regard des gens, je l'ai vécu a posteriori, parce que je pense qu'on était un peu dans notre bulle. Mais je comprends, une fois de plus, je suis maman aujourd'hui, j'ai une belle fille qui a 20 ans, et si elle me ramenait un garçon de 54 ans, mais je serais consternée. Et pourtant, alors je pense que là, c'est là où tout d'un coup, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel, Jean-Marie, et il m'a transmis, parce qu'on voyait, on fréquentait beaucoup Jacques Dutronc et Françoise Hardy, qui sont ses amis de toujours. Et je suis rentrée, là, à 20 ans, j'ai été projetée dans un univers à nouveau très différent, avec un humour, avec un second degré permanent. Et ça n'a pas été du tout destructeur chez moi, au contraire, parce que je pense que la base était solide déjà, et puis que Jean-Marie est quelqu'un d'extrêmement sain, finalement. Ça m'a... donner envie de me marrer, quoi.
Et non seulement de vous marrer, mais grâce à lui, Julie Andrieux, vous avez découvert la cuisine.
Alors, paradoxalement, grâce à lui, j'ai arrêté la photo, ou à cause de lui. Oui, parce que lui connaissait la réalité de la photo. Il est photographe, même si moi, je voulais être photoreporter. Ça n'est pas le métier qu'il a choisi. Mais il m'a dit, attends, tu vis sur un fantasme, ça n'existe plus. Ou si, ça existe pour une poignée de très grands photographes qui se sont battus toute leur vie, qui gagnent difficilement leur vie d'ailleurs, et qui ont sacrifié leur quotidien. Lui n'avait pas envie de me voir partir au Kosovo ou je ne sais où. Moi, j'étais peut-être pas suffisamment armée pour aller jusqu'au bout de mes rêves, comme disait Jean-Jacques Goldman. Et du coup, il m'a détricoté un peu le truc. Et puis, je crois que finalement, ce qui m'intéressait à travers la photo, c'était le mode de vie. Voilà. Et là, tout d'un coup, mon mode de vie avait changé, en tout cas mes aspirations. J'avais envie de vivre avec l'homme que j'aimais. Et du coup, je me suis retrouvée comme trois ronds de flanc. Fini la photo, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans le sérail familial, parce que du côté de maman, il y avait toute la famille est dans l'immobilier, et donc je suis rentrée dans l'immobilier, comme le font beaucoup de gens qui cherchent un peu à travailler, à gagner sa vie. Et je me suis drôlement fait chier, on peut dire ça à votre antenne Voilà.
Pardon,
J'imaginais que j'allais vendre des châteaux, j'étais passionnée par les vieilles pierres, par le patrimoine, je le suis toujours, mais là je me suis retrouvée à vendre des studios en faisant des surplaces, je ne sais pas si ça existe toujours, à attendre le client pendant 3 heures avec une annonce dans le Figaro. Bon, il faut bien gagner sa croûte.
Et voilà. Et ensuite, vous avez construit votre carrière, justement, mais loin de l'immobilier. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 1er octobre 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Andrieux.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Julie Andrieux. 1er octobre 1999, sortie de la cuisine de Julie, votre premier livre. Alors ça, c'est étonnant. Et quand je disais que Jean-Marie Perrier est pour beaucoup dans votre vocation, je crois que vous avez commencé par des recettes de lapin et qu'ensuite vous avez continué.
Pas exactement de lapin, mais le lapin faisait partie des premiers plats. Mais Jean-Marie m'a amené à la gastronomie, à la cuisine, je dirais, parce que c'était pas forcément les recettes de grand chef. Mais il m'a amené à apprécier la bonne cuisine. Il m'a emmené dans les bistrots. C'est comme ça qu'il aimait se nourrir. Moi, je ne connaissais, c'était une terra incognita. Je ne savais pas de quoi on me parlait. Donc, des salades de lentilles, des terrines de foie de volaille, des plats mijotés, des verres de vin. Voilà, tout ça était très nouveau. Et j'ai tout de suite apprécié. Ça a été un art de vivre, un petit peu, que j'ai adopté grâce à lui. Et très vite, je me suis dit, bah oui, mais enfin, il faudrait quand même que je sache un tout petit peu cuisiner à la maison, parce qu'on va pas passer notre temps dans les restaurants. Et je me souviens encore d'avoir pris un livre dans sa bibliothèque, qui était un livre de Michel Guérard, La cuisine gourmande. J'ai regardé la fameuse terrine de foie de volaille, puisque c'était un petit peu la valeur étalon, selon Jean-Marie, d'un bistrot. Si la terrine de foie de volaille était bonne, tout était bon. Donc je me suis dit, si ma terrine de foie de volaille est bonne, je vais réussir à faire la cuisine. Alors la première a été vraiment dégoûtante, parce que complètement ratée, quand on ne sait rien. Alors moi, j'ai sorti ce truc que j'avais suivi scrupuleusement la recette, et puis il y avait plein de gras, plein de jus, j'ai tout jeté bien sûr, donc c'était tout sec. Bon, et puis de fil en aiguille, j'ai persévéré, ça a commencé à devenir un peu plus comestible, et après c'est devenu aussi passionnel que la photo l'avait été. Je faisais la cuisine tout le temps, je testais des recettes, j'invitais des amis, voilà.
Et le livre, le premier livre est né comment?
Alors le premier livre est né grâce à Claude Lebé, que nous connaissons tous les deux.
Oh, oui.
Qui a été donc éditeur, critique gastronomique, entre autres choses, et qui a été un peu un agent de grand chef, qui a d'ailleurs lancé cette collection dans laquelle figurait La cuisine gourmande de Michel Guérard, entre autres, chez Robert Laffont. Et donc Claude, que j'ai rencontré un peu par hasard, par l'intermédiaire de Jean-Marie toujours, a trouvé amusant qu'une jeune fille de, je sais pas, 22 ans, s'intéresse à la cuisine. À l'époque, il faut savoir que c'était pas du tout à la mode, hein, vraiment. Seuls les mères au foyer faisaient la cuisine, en gros, et puis les grands chefs. Et donc moi, j'étais dans ma cuisine, tout le monde se demandait un peu ce que j'y faisais, d'ailleurs, mais lui a trouvé ça amusant. Il m'a dit, écoutez, moi je vous donne votre chance, je voudrais que vous écriviez toutes vos recettes, ce que vous faites au quotidien pour mon mec et mes copines. C'était le sous-titre, La cuisine pour mon mec et mes copines, mais à une condition, que vous n'utilisiez à aucun moment le jargon culinaire des chefs. Ça tombait bien, je le connaissais pas. Donc j'ai écrit comme ça, comme je vous parle, et je pense que c'est ça qui a fait que le livre s'est très bien vendu. Ça a contribué avec d'autres d'ailleurs à ouvrir une nouvelle voie, qui était une voie qui n'était ni celle des chefs, ni celle de la gastronomie des grands-mères, de terroir, avec Maïté, qui était déjà dans le paysage audiovisuel, mais la cuisine peut-être un peu plus urbaine, un peu plus jeune, un peu plus cosmopolite, et surtout accessible, où en fait le message que je délivrais, c'est allez-y, lancez-vous, même si vous n'y connaissez rien, ça peut marcher.
Oui, à l'époque, Claude Lebé avait été le premier à croire au livre de Bocuse et de Troisgros. Personne n'y croyait, comme Michel Guérard, ça a fonctionné. Et ensuite, c'est à ce moment-là que les chefs sont devenus des stars. Avant, personne n'en parlait.
Il y a contribué largement, absolument.
Et pour lui, je crois, Julie Andrieux, vous êtes devenue critique gastronomique.
Oui, il m'a proposé de rentrer dans son équipe de testeurs, de dégustateurs. Et donc, j'allais dans les restaurants, incognito. Bon, personne ne me connaissait de toute façon, mais on ne devait évidemment pas se découvrir et s'annoncer. Donc, on goûtait les plats, on avait des petites fiches à remplir et on devait dire ce que l'on pensait de l'accueil, de la qualité de l'entrée, du plat, du dessert, etc., du prix, est-ce que ça les valait. Bon, c'était très amusant, très formateur. C'était plus onéreux que ça ne m'a rapporté d'argent, parce qu'en fait, j'invitais systématiquement des copains à déjeuner, parce que c'est un peu triste quand même de déjeuner, en plus à l'autre bout de Paris, parce qu'évidemment, c'est pas dans votre quartier. Et ça n'était pas pris en charge. Mais c'était très formateur, et Claude m'avait amusé parce qu'il m'avait dit, on va voir si vous savez manger. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Claude? Savoir manger dans son esprit, c'était savoir déguster et savoir restituer ce que l'on a goûté et avoir un avis finalement.
Ouais, et vous l'avez eu cet avis. Alors la critique gastronomique, elle est au cœur d'un film qui est un film culte pour toutes les générations.
Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
Louis de Funès, le grand restaurant, la danse célèbre.
Quelle merveille.
Quelle merveille. Où Louis de Funès joue avec son fils, Olivier, qui ensuite est devenu pilote de ligne. Il a joué 6 films avec Louis de Funès et après il a changé de métier.
Ça, je savais pas. Voilà. Ce que je savais, c'est que Louis de Funès était passionné par le maraîchage à une époque où, là aussi, c'était pas très populaire. Il avait été un des premiers à faire un jardin potager bio pour son propre usage, mais en défendant fermement le bio dans les années 70, alors qu'on savait même pas ce que c'était que le bio, donc faut lui rendre hommage.
Oui, et son jardin, c'était l'essentiel de sa vie entre deux tournées dans son château.
C'est ça, près de Nantes, je crois.
Voilà, près de Nantes, il s'occupait aussi de ses roses auxquelles il tenait.
Ouais.
Alors finalement, faire des livres de cuisine pour une jeune femme, c'est assez nouveau quand vous arrivez, Julien Drieux. En général, ce sont des grand-mères un peu rondes.
Ou là, des grands chefs.
Ou des grands chefs, ça change totalement.
C'est vrai, ça change totalement. Je ne suis pas sûre que j'ai été accueillie d'un bon œil de la part de tout le monde. Ce que je comprends, a posteriori, parce que c'est vrai que les gens qui, notamment les chefs, mais qui ont passé des années à trimer, parce qu'on sait que l'apprentissage d'un chef n'est pas toujours facile, devaient se demander ce qu'elle faisait là, cette petite Péronnelle. Mais voilà, une fois de plus, je ne prétendais pas savoir. Au contraire, je mettais en avant mon inculture en matière de gastronomie, si ce n'est que toutes les recettes que je délivrais, je les avais testées, retestées, j'avais fait les erreurs inhérentes à ces recettes, donc je pouvais peut-être les anticiper chez les autres. Je ne prétendais pas, mais voilà, je rendais peut-être la cuisine du quotidien un peu plus accessible.
Je me suis un peu renseigné, le premier livre de cuisine, je ne sais pas si vous le savez, Julien Drieux, remonte à l'Antiquité romaine.
Apicius ?
Oui, l'art culinaire, avec Apicius qui est le plus grand gastronome de l'époque.
C'est vrai, qui a été réédité de nombreuses fois d'ailleurs.
Alors, les recettes, justement, quand vous arrivez, deviennent de plus en plus faciles pour le consommateur. C'est-à-dire que, grâce à vous, de plus en plus de femmes et d'hommes vont pouvoir préparer chez eux des bons petits plats.
J'espère.
Oui, mais c'est ce qui s'est passé.
Oui, oui, et puis il n'y a pas eu que moi, heureusement, mais il y a eu comme ça un vent de quelques cuisiniers amateurs au départ qui ont permis peut-être voilà, de rendre cette cuisine plus accessible. Et puis, moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup voyagé, on en a parlé, et donc je proposais aussi des recettes d'inspiration très ethnique, je mélangeais des produits plus originaux, plus étrangers. Donc voilà, je débridais peut-être un peu cette cuisine qui en France, alors il faut s'en réjouir ou pas, je ne sais pas, et parfois un petit peu serrée dans son carcan académique.
Oui, et puis en plus quand vous êtes arrivée, il y avait des livres sur la cuisine française, parfois italienne, mais vous êtes la première à avoir fait des livres sur d'autres cuisines beaucoup plus exotiques.
C'est vrai. C'est vrai, oui.
Comment
oui.
C'est venu, ça ?
Alors, c'était pas des livres sur une cuisine en particulier, mais à l'intérieur de mes livres, il y avait beaucoup d'inspiration marocaine, indienne, africaine. Grâce à mes voyages que je continuais de faire, parce que c'est devenu vraiment un mode de vie, je partais chaque année, toujours seule, pour aller à la rencontre des autres. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, lorsqu'on voyage seul, on est beaucoup plus dépendant de l'autre et de la rencontre. On a besoin de l'autre. Quand on voyage ne serait-ce qu'à deux, on fait groupe, on fait masse, on fait bloc, tant mieux, mais du coup on se sent peut-être un petit peu moins vulnérable et les autres viennent moins à vous. Donc moi je poussais les portes, je rentrais dans les maisons, j'ai toujours eu cette facilité à entrer en contact avec les gens. Et en même temps une grande timidité dès qu'il s'agit de liens plus sociaux, de rituels plus... comment dire, de soirée, de cocktail. Alors là, je ne suis pas du tout à mon aise. Mais voilà, c'est paradoxal.
Mais non, mais chacun son domaine. Et effectivement, vous avez fait beaucoup, beaucoup de livres. Et notamment, vous avez été la première à faire des livres de cuisine sur le Japon, à une époque où on ne parlait pas des Japonais qui adoraient la cuisine française. Aujourd'hui, vous avez plein de chefs japonais qui viennent en France apprendre leur métier et qui repartent dans leur pays.
Oui, c'est vrai. J'ai fait une émission sur la cuisine japonaise. Je devais avoir 25 ans parce qu'il y a eu une émission préalable à Fourchette et Sac à dos sur France 5, dont peut-être les gens se souviennent, mais j'en ai fait une auparavant, où je voyageais dans le monde entier et on est parti pour le Japon et j'ai eu comme je crois tous ceux qui s'intéressent à la cuisine, je suis tombée en amour pour ce pays, pour ce peuple et pour cette cuisine.
Oui, et il faut savoir aussi que la cuisine française et les chocolatiers français sont des dieux vivants au Japon.
C'est vrai.
Jean-Paul Evin, qui est un grand chocolatier français, chaque fois qu'il y a la fête de la Saint-Valentin au Japon, il y a 6 heures d'attente devant sa boutique.
Inimaginable.
Et les chocolatiers français les chocolatiers japonais ont des noms français. Ouais. C'est-à-dire que le Palais d'Or, par exemple, à Tokyo. Et le chocolat aussi, ça vous passionne.
Oui, le chocolat, grâce à Claude Lebet, une fois de plus, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux dégustations du Club des Croqueurs de Chocolat, que vous connaissez bien, cher Jacques, et d'écrire un guide sur le chocolat. Et là aussi, c'est un exercice de style drôlement difficile parfois, parce que sur 200 pages, il faut donner un avis sur des chocolats, donc un praliné, une ganache à ceci ou à cela, avec à chaque fois un vocabulaire un peu différent, trouver une tournure de phrase qui soit à la fois précise et pas prétentieuse. Voilà, donc ce sont des exercices auxquels je me suis frottée grâce à Claude et qui forgent un petit peu l'écriture en tout cas.
Oui.
Et le palais.
Et le palais surtout. Et la télé est arrivée ensuite, je crois que ça a commencé avec Téva. C'est arrivé comment la télé, Julie Andrieux ?
Alors la télé, ben moi c'était mon sérail finalement, maman en tout cas, à partir du moment où je suis arrivée dans sa vie à travailler quasiment exclusivement pour la télé, à l'exception d'une pièce avec Renaud Barreau. Et donc moi la télé, j'avais biberonné le tube finalement, je connaissais ça par cœur. Donc je me suis dit, j'aime la cuisine, je connais la télé, pourquoi pas faire une émission de cuisine à la télé ? Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose, il y avait Rebuchon dans un format qui était très didactique, mais peut-être qu'on aurait pu secouer un peu. Il y avait Maïté, mais là je ne prétendais pas monter sur les plates-bandes de Maïté. Et donc j'ai toqué à la porte des chaînes qui étaient plus accessibles à l'époque quand même, et notamment Téva, mais j'en ai essayé beaucoup d'autres. Et là j'ai reçu un refus de quasiment tout le monde, ce qui était normal. Alors, personne ne me connaissait, pourquoi la cuisine ? Personne ne s'intéressait à la cuisine. Et Téva, effectivement, Clémence de Bodina, qui était la directrice de Téva à l'époque, m'a dit, écoutez, nous on vient de se créer, c'est une chaîne dédiée aux femmes, je ne voudrais pas donner l'impression, faire passer le message aux femmes que forcément on va les mettre à la cuisine. Donc laissez-nous une année ou deux pour installer d'autres programmes, pour ouvrir le champ, et après, pourquoi pas une émission de cuisine qui justement soit un peu différente, qui donne une image de la femme en cuisine différente. Et voilà, je suis rentrée par cette voie-là.
Et ça s'est développé rapidement. La première émission de télévision sur la cuisine, c'était Art et magie de la cuisine avec Raymond Oliver.
Oh bah oui.
Et ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a eu un produit dérivé, le premier produit dérivé de l'histoire de la télé, qui était un jeu de questions où il y avait des réponses en 15 plats. C'était un jeu de société. Il a créé ça et ça a très bien marché à l'époque. Alors, vous avez continué et vous avez réalisé une performance en préparant des recettes en 90 secondes sur TF1, Julie.
Oui, c'est vrai. J'ai passé un... Alors, je suis allée voir... Oh, son nom m'échappe, le directeur de l'antenne à l'époque. Voilà, ça va me revenir.
Étienne Moujotte.
Oui, voilà, Étienne Moujotte, absolument. Je suis allée voir Étienne Moujotte, qui, là aussi, m'a reçu gentiment, mais en me disant, écoutez, ma petite dame, je sais pas si c'était comme ça, mais il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un programme de cuisine? Ça n'intéresse personne. Alors, évidemment, on était bien avant Masterchef, Top Chef et compagnie. Et je lui dis, mais non, je vous assure, ça peut intéresser des gens, tout dépend du traitement. Bon, je me suis allée avec mon bâton de pèlerin. Bref, il m'a dit, écoutez, la seule chose que je peux vous proposer, c'est un programme court, sponsorisé, c'est-à-dire entièrement financé par une marque, et il se trouve que voilà, j'ai trouvé une marque que j'ai accolée à ce programme, et on a quand même fait presque 3 ans de programme, et l'idée était de mettre en avant une recette dans un cadre de vie, dans un appartement, comme ça peut se faire aujourd'hui, enfin même à l'époque, de faire la cuisine en train de faire autre chose, de discuter avec des copains, d'écouter la radio, bon, et on essayait de faire quelque chose de très vivant et très accessible.
Et ben voilà, ça a été le point de départ d'autre chose. On en parle dans quelques instants avec une date qui vous a marqué aussi, le 15 septembre 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Julie Andrieux.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Julie Andrieux. Alors, le 15 septembre 2012, c'est une date importante parce que c'est la première de cette émission. Les carnets de Julie sur France 3, le samedi à 16h. Ça a commencé, ça fait 8 ans et ça continue.
Et ça continue sous différentes formes parce que j'aime bien, moi, que les choses évoluent. Peut-être que je me lasse un peu vite. Donc, on a fait pendant presque 5 ou 6 ans la même formule. Donc, une balade en région, dans différentes régions de France, à la découverte des traditions, des savoir-faire et donc de la gastronomie populaire. Et puis maintenant, on a donné un angle peut-être un peu plus précis pour se renouveler, parce que là, on en est à plus de 250, je crois, qui sont à la fois deux collections, comme on dit. L'une, les gastronomes, les artistes gastronomes. Donc, on a évoqué la mémoire de Cézanne, Marcel Proust, Zola, Colette, évidemment, etc. Et en parallèle, rien à voir, mais avec toujours, évidemment, la cuisine et la nourriture en fil conducteur, ce qu'on a appelé les nouveaux paysans. Donc j'aime bien ce mot de paysan que je défends parce que je sais que les agriculteurs le défendent aussi, c'est l'homme du pays littéralement. Et donc ces nouveaux paysans, ce sont nos agriculteurs simplement, quelles que soient les générations, mais qui se remettent en question, qui commencent à faire évoluer leurs pratiques et donc leur conception de ce métier et qui nous ouvrent un petit peu leur carnet secret, leur entourage et leur cheminement de vie.
Cette émission, elle est née au départ sur un modèle qui était sur Arte avec une Allemande qui s'appelle Sarah Wiener, je crois.
Oui, j'ai même tourné avec Sarah Wiener, ouais, en Allemagne. Oui, peut-être. J'avoue que moi, c'était surtout dans mon esprit l'idée de faire ce que je faisais jusque-là, c'est-à-dire fourchette et sac à dos dans différents pays du monde. J'ai commencé à avoir envie d'avoir des enfants, donc ça n'était plus possible de partir 15 jours comme nous le faisions pour France 5 sur fourchette et sac à dos pour chaque voyage. Et donc je me suis dit, mais après tout, je connais si peu la France, pourquoi ne pas adapter ce format à la France et découvrir nos différentes régions comme on pourrait le faire de différents pays, puisqu'autrefois on disait les pays de France. Et après, c'est vrai que les gens m'ont parlé de Sarah Wiener, mais voilà, je ne peux pas dire que j'ai pris ce modèle-là, mais il est plutôt gratifiant.
Oui, parce que cette femme qui était rien du tout au départ, aujourd'hui trois grands restaurants à Berlin, oui. Elle est députée européenne.
Ah, je ne savais pas.
Elle a été championne du monde en arts martiaux.
Ah, dis donc, elle a plusieurs casquettes.
Voilà, elle a commencé en ouvrant une cantine par hasard pour le grand public et ça a marché. Ouais. Et cette émission, donc vous êtes allé voir des producteurs et ça marchait tout de suite. Tout de suite, on a voulu lancer ces carnets de Julie.
Oui, mais je crois que on sait bien que les Français sont fiers de leur pays, à juste raison, et que peut-être on ne met pas beaucoup en avant les régions, peut-être pas assez à travers la télévision et ses petites particularités. Moi, ce que j'ai trouvé sympathique, c'est de pouvoir mettre en avant non pas des départements, parce que finalement, c'est une segmentation administrative relativement récente, hein, c'est Napoléon. C'est surtout des pays de France, comme on disait, voilà, c'est-à-dire une entité géographique, culturelle, qui explique que tel savoir-faire soit né dans telle vallée ou tel produit soit né dans telle vallée et pas dans telle autre. Et puis à travers les histoires que me racontent les gens, à travers les recettes, on raconte finalement beaucoup plus qu'une recette. Vous le savez, vous qui pratiquez une maïeutique, accoucher les esprits, moi j'essaye plus modestement de demander aux gens de me raconter leurs recettes de famille et à travers leurs recettes de me raconter leurs histoires de famille, de village, de région.
Oui, parce que justement, on dit que les villages disparaissent, que les agriculteurs sont en difficulté avec le confinement, c'est de pire en pire. Votre mission est importante, Julie Andrieux.
Oui, alors j'aimerais bien la faire évoluer d'ailleurs pour traiter plus précisément du maraîchage. C'est une des envies que j'ai de créer un programme autour de l'art du potager, parce que je pense que la question de l'autonomie alimentaire se pose plus que jamais et qu'il faut valoriser ceux qui nous permettent encore d'assumer cette autonomie et peut-être apprendre aux gens, comme moi d'ailleurs, qui suis tout à fait néophyte dans le domaine, je dois le dire, à part avoir planté trois plants de tomates dans ma vie, apprendre aux gens à cultiver son jardin, comme disait Voltaire, au sens propre et figuré. Donc voilà, ça fait partie des nouveaux combats que je voudrais mener.
Et Bernard Loiseau, en son temps, avait été le premier à croire aux artisans. Dans le Morvan, où il avait son hôtel-restaurant, il défendait les artisans de la région. Et pour vous, défendre les artisans de toute la France, c'est aussi très important, Julie.
Oui, alors j'ai bien connu, grâce à Claude Lebet, Bernard Loiseau, que j'aimais beaucoup, qui était quelqu'un d'extrêmement sincère et extrêmement talentueux, mais moi il me semble que tous les chefs avaient pour vocation, et l'ont fait très naturellement, de mettre en valeur l'artisanat de leur région, comme aurait fait un Georges Blanc tellement implanté dans sa région, la famille Pic, ça paraît aller de soi. Après, c'est vrai que c'est un vrai travail de recherche que d'aller trouver ces fameux artisans, qu'ils soient alimentaires ou pas, parce que ça peut être la vaisselle, ça peut être la coutellerie, mais nous avons tellement de trésors dans notre joli pays, et qui sont évidemment menacés par la concurrence étrangère. Donc acceptons peut-être parfois de payer un peu plus cher, de consommer moins et mieux. Ça vaut pour la nourriture comme ça vaut pour les objets que l'on achète au quotidien, et de valoriser ces produits français. C'est un vrai travail, c'est une vraie attention au quotidien, mais je crois que la France en vaut le coup. Oui.
Oui, pendant des années, on s'est un peu fichu de ces artisans. Maintenant, on s'intéresse à nouveau à eux. Et Julie Andrieux, votre émission est importante pour ça.
J'espère. On essaye de les valoriser, oui, parce que c'est un long apprentissage. C'est parfois des métiers qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et ce sont des savoir-faire qui, moi, c'est pour ça que je les fais vraiment, ça avait presque une valeur conservatoire, qui sont menacés de disparition, très clairement. Et comme les recettes le sont aussi, parfois, on me confie des recettes et j'ai conscience qu'il n'y a plus que une ou deux dames dans la région qui font cette recette parce qu'elle prend tellement de temps, elle nécessite des produits qui sont plus à la mode. Bon. Et ça, ce serait dommage de les perdre.
Et chaque émission se termine un peu comme dans Astérix, par un banquet.
Un banquet, ouais, qu'on appelle pompeusement banquet, mais finalement, je trouve ça assez drôle, ce terme. Oui, et on l'a fait un peu comme ça, par hasard, en se disant, bah, tiens, après tout, on pourrait partager un repas. Et dans le fond, c'est le moment où les gens se relâchent. Ils sont un peu tendus, c'est normal, c'est pas leur métier que de passer à la télé. Et là, tout d'un coup, ça y est. Ils ont fait leur recette, ils ont fait leur séquence, comme on dit dans notre jargon. Et on est à table et on oublie les caméras. Et je dois rendre hommage à l'équipe avec laquelle je travaille depuis le début, quasiment. Il y a quelques réalisateurs et quelques cadreurs et preneurs de son qui se font extrêmement discrets, qui sont très respectueux des gens. Et ça, c'est très important. Je pense que dans nos métiers, il faut pas oublier que ce sont pas seulement des personnages, ce sont des personnes. Et du coup, ben voilà, ça permet aussi de faire en sorte que l'échange soit complètement naturel, et parfois on va bien au-delà du sujet.
Voilà. Et dans Art et magie de la cuisine, dont je vous parlais tout à l'heure, à la fin de l'émission, quand on rendait l'antenne, tous les plats étaient préparés en direct, l'équipe se jetait sur les plats pour les dévorer. Alors, il y avait la chaleur des projecteurs, c'était pas tout à fait consommable, mais ce sont des moments fabuleux.
Il faut bien qu'il y ait quelques privilèges dans ces métiers.
Alors, Julie Andrieux, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a quelque chose de très important dans vos émissions, c'est le Peugeot 304 Cabriolet.
Micheline, comme je l'ai appelé.
Pourquoi ?
Ouais. Bon, je ne sais pas, parce qu'elle avance à peu près à la vitesse d'une Micheline. Et donc, dès les premières émissions, je l'ai appelée Micheline, parce que finalement, j'avais l'impression que c'était un personnage, justement, que c'était vraiment... elle participait activement à l'émission, et Dieu sait que ça s'est avéré vrai, puisque les gens s'y attachent beaucoup. Et puis, je crois que, pour une certaine génération, en tout cas, dont nous faisons partie, tout le monde a plus ou moins croisé cette voiture dans sa vie. On a eu un oncle, une tante, ou soi-même, on a eu cette voiture à une époque. Et donc, ça, elle fait partie de la culture collective.
Oui, elle a été commercialisée en 1970.
Ouais.
Et comment êtes-vous arrivé à cette voiture ? Comment est-elle arrivée dans votre vie ?
Oh, c'est mon producteur Pierre-Antoine Capeton qui on cherchait un véhicule, et lui me dit à un moment, tiens, pourquoi pas la 304 ? J'avoue que j'y pensais pas plus qu'à autre chose. Et il se trouve qu'on a trouvé la voiture, on aimait la couleur, et voilà, c'était un peu un hasard. C'était pas... Moi, s'il avait fallu que ça ait une résonance avec ma vie, ça aurait été mon sidecar. Voilà, c'était un peu compliqué.
C'est
puis
pas en, terrible,
sous la pluie, puis j'avais le souvenir, pour avoir eu pendant 5 ou 6 ans ce sidecar, d'avoir eu tellement de pépins techniques que je voulais pas y revenir.
Vous êtes devenue la femme à la voiture rouge.
Ouais.
Alors qu'il y avait un feuilleton de Radio Luxembourg dans les années 60 qui a duré plus de 1000 épisodes, qui s'appelait L'homme à la voiture rouge,
ah,
que les enfants suivaient à l'époque.
Quelle culture, Charles-Jacques, quelle culture.
Alors, il y a donc cette voiture qui arrive, cette voiture qui a été ensuite restaurée dans une émission de télévision.
C'est vrai.
En 2018.
Oui, absolument. On a restauré cette voiture sur... je cherche le nom de la chaîne. RMC Découverte.
Oui.
Et les gens me parlent beaucoup de cette émission de restauration, en tout cas, de cette époque. Donc, qui suivent le personnage dans toutes ces aventures. Je parle de la voiture, je parle pas de moi.
Bon, on est bien d'accord. Alors, finalement, vous vous apercevez, avec toutes ces émissions, que les produits ont changé dans nos régions. Avec le bio, avec tout ce qui est arrivé, il y a une évolution certaine.
Oui, je trouve qu'il y a une évolution positive dans la prise de conscience de l'importance de la nourriture, mais au-delà de la nourriture et de sa valeur nutritive, calorique, c'est aussi la façon de produire les aliments. Il y a presque un engagement éthique quand on achète un aliment, de se dire qui l'a produit, quels sont l'impact environnemental, l'impact social. C'est aussi pour ça que parfois c'est un vrai casse-tête de faire ses courses, parce que si on commence à se poser toutes ces questions-là, de passer nos achats à ce filtre-là, ah ben on n'a pas fini. Donc le poisson, il doit être durable, les produits français, si possible, mais en même temps, c'est pas toujours la bonne saison. C'est très compliqué. Donc, comme toujours, finalement, c'est un compromis. Moi, je le fais aussi, d'ailleurs.
Et vous avez fait la France, mais aussi, il y a eu une émission à New York, Julie Andrieux.
Oui, il y a une émission à New York avec, je me souviens, la participation de Marc Lévy et d'Alain Ducasse. C'était pas mal, quand même.
Alors, il y a la télévision, puis il y a eu beaucoup de choses, il y a les livres, et puis vous avez lancé une collection de tabliers.
Oui.
C'est assez curieux, Julie Andrieux.
Oui, parce que j'en utilise beaucoup, forcément, faisant la cuisine, et je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché n'était pas folichon, et donc je me suis fait plaisir, j'ai choisi des tissus originaux, colorés, parfois des tissus qui pourraient plutôt être des tissus d'ameublement, avec des jolies finitions, enfin voilà, je suis pas sûr que j'en vivrais, pour tout vous dire. Je crois pas que ce soit une démarche très rentable, mais peu importe. Je l'aurais fait, j'ai de jolis objets que les gens partagent, apprécient. Je les vends uniquement par Internet, d'ailleurs, parce que si je les mettais en boutique, la marge que ferait la boutique serait tellement importante que le prix, à l'arrivée, serait trop élevé. Donc voilà, c'est ce que nous permet Internet, d'être en direct.
Et en même temps, vous travaillez vos recettes en permanence, vous cherchez en permanence, Julie Andrieux.
Oui, bien sûr, ça fait partie du métier. C'est un véritable laboratoire, la cuisine.
Et vous travaillez chez vous, en studio ?
Ah non, 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 chez moi, en tout cas pour l'instant, non, non, chez moi, j'ai eu la chance d'avoir une jolie cuisine et puis je commence à faire mon petit potager, donc je commence à aller dans mon jardin pour cueillir mes tomates, mes courgettes, mes artichauts, et alors là c'est un plaisir inouï, je verse dans le jardin comme avait fait Jean-Pierre Coff, j'ai commencé par la cuisine et là j'avoue que je me passionne de plus en plus pour le jardin, en général, hein, pas seulement potager, et j'ai l'impression, comme quand j'avais 20 ans et que je me suis intéressée à la cuisine, je découvre mille choses et j'essaye d'apprendre modestement. C'est passionnant.
Et puis, vous avez quand même deux enfants, dont un qui se prénomme Adrien, en hommage à Marguerite Duras.
Marguerite Yourcenar.
Yourcenar.
Oui, oui, oui. Alors, ben oui, les mémoires d'Adrien, l'empereur Adrien, l'empereur romain, parce que j'ai beaucoup d'affection et surtout d'admiration pour Marguerite Yourcenar. Je connais bien le personnage, à défaut d'avoir connu la femme. Et je suis passionnée par ce roman. Je trouve qu'il est vibrant, il est tellement vrai, tellement intemporel. Ce personnage qu'elle dessine me touche infiniment, de grand homme sur la fin de sa vie. Qui se retourne sur sa vie, qui fait le bilan des erreurs, des atermoiements, de l'amour. Et je me suis dit, si un jour j'ai un garçon, je l'appellerai Adrien.
Voilà. Et Marguerite Yourcenar avait une spécialité. Quand un journaliste faisait un article sur elle, elle lui répondait à l'encre verte en corrigeant les fautes d'orthographe et les fautes de français.
Elle devait être très, très, très pointilleuse pour dire les choses poliment.
Ah oui.
Oui, oui, ça ne m'étonne pas. C'était une grande lettrée. Elle faisait partie de cette génération qui n'était pas allée à l'école, qui avait eu un précepteur à la maison. Et elle connaissait tous les auteurs classiques, elle lisait le latin parfaitement. C'est sûr que c'est une autre génération.
Ben continuez comme ça, Julie Andrieux, et merci dans cet emploi du temps chargé d'avoir trouvé le temps de venir dans les Clés d'une vie.
Mais merci Jacques de m'avoir reçu surtout.
Alors à bientôt.
À bientôt.
Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt et restez surtout fidèles à l'écoute de Sud Radio.